Élection européenne, la fragmentation en marche. Au lendemain du vote des Européens, quels enseignements tirer de ce scrutin? Notre invité, le politologue et sondeur, analyste politique, Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion et Stratégie de l'IFOP, auteur surtout de L'Archipel français, Naissance d'une nation multiple et divisée, paru au Seuil. Un essai, prix du livre politique cette année, où il montre les métamorphoses françaises depuis l'éclatement de son socle catholique républicain. La France serait aujourd'hui un archipel d'îles, s'ignorant les unes les autres. Sécession des élites, déclassement des classes moyennes, volonté d'affranchissement culturel des classes populaires. Comment en est-on arrivé là? Et surtout aujourd'hui, la recomposition du paysage électoral suit-elle cette archipélisation de la France? On en parle avec vous, Jérôme Fourquet, bonjour.
Bonjour.
En France, est-ce que le clivage gagnant ouvert et perdant fermé que vous théorisez dans cet essai a été révélé ou est révélé aujourd'hui au grand jour dans cette élection européenne?
Alors il s'est exprimé une nouvelle fois, comme il s'était exprimé déjà au moment de l'élection présidentielle avec la qualification pour le deuxième tour d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen, chacun sur des sociologies bien particulières. Ce clivage se retrouve de nouveau depuis hier dans les résultats de ce scrutin, puisque ce sont les deux mêmes listes qui ont fini en tête du scrutin, là encore avec un clivage sociologique extrêmement marqué. Pour faire court, le Rassemblement National domine très largement dans les milieux populaires, aux alentours de 40%, quand Emmanuel Macron et sa liste, plus exactement, ont fait à peu près le même score dans ce qui convient d'appeler la France qui est la plus aisée, la France des cadres supérieurs, des dirigeants d'entreprise et des professions libérales. Donc on a ce nouveau vote de classe, mais qui ne renvoie plus à une opposition gauche-droite, mais à cette opposition entre macronistes d'un côté, frontistes de l'autre. Et c'est ce clivage-là qui devient de plus en plus structurant, même s'il ne rend compte que d'une partie de la réalité électorale, puisque ces deux listes prises dans leur globalité ne font que 45 à 46% des voix. Donc il y a aussi autre chose qui a été révélée dans ce scrutin.
Et c'est cette autre chose dont on va parler avec vous. Il y a eu pour cette élection un nombre record de listes, plus d'une trentaine, à offre électorale multiple, une France multiple, ou dans le sens inverse, à France multiple, une offre électorale multiple. Et est-ce que pour autant, cette offre coïncide avec cette nouvelle photographie, cartographie sociale de la France?
Alors, on a effectivement essayé d'expliquer dans le livre que le vieux paysage électoral structuré autour du clivage gauche-droite était tombé en désuétude ou était beaucoup moins prégnant que par le passé, parce que la réalité sociale et culturelle sur laquelle il était appuyé depuis des décennies avait considérablement évolué. Et donc, ce qui s'est passé en 2017 et ce que nous voyons là aujourd'hui en 2019, qui est une réplique de ce séisme, n'est quelque part que la mise en conformité du paysage électoral avec la réalité culturelle, économique, sociologique du pays aujourd'hui, sachant que, bien évidemment, chacune des îles et îlots de l'archipel n'a pas forcément trouvé chaussure à son pied. On a quand même beaucoup d'abstentionnistes et que cette diversification sans précédent du nombre de listes renvoie en partie, mais en partie seulement, à l'archipélisation.
Une hausse quand même de la participation sur ce scrutin, nette hausse par rapport au précédent scrutin européen, et pour autant vous diriez beaucoup n'ont effectivement pas trouvé chaussure à leurs pieds. C'est comme ça que vous expliquez cette abstention? Alors, en France et en Europe?
Alors deux éléments de réponse. Vous avez raison de souligner qu'il y a une hausse de la participation, ce dont il faut toujours se réjouir, alors même que la campagne objectivement a été d'assez faible intensité, a été réduite aussi en termes de calendrier. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a une mobilisation sans doute dans la dernière ligne droite et qui a manifestement plutôt profité aux listes écologistes, notamment celle conduite par Yannick Jadot. Et puis, deuxième élément, on a souvent tendance à expliquer l'abstention par le fait que l'offre politique ne correspond pas ou n'est pas assez diversifié. Or là, il y avait 34 listes, alors tout le monde n'avait pas des bulletins dans chacun des bureaux de vote, mais on peut penser quand même que le choix proposé aux Français était assez éclectique et assez diversifié, et pour autant, près d'un Français sur deux n'a pas voté. Alors, ça dit des choses sur le rapport à l'Europe, ça dit aussi beaucoup sur le degré de défiance et de dépolitisation d'une partie de la population qui, même quand il est soumis à une pluralité d'offres politiques, ils décident pour autant, une partie de ce corps électoral, de rester à la maison.
C'est la philosophe Barbara Stiegler, l'auteur de « Il faut s'adapter » sur un nouvel impératif politique, celui du « adaptez-vous », qui, dans les colonnes de Libération ce matin, parle d'un dysfonctionnement majeur de notre démocratie. Notre vie sociale et démocratique réelle, dit-elle, est bien plus riche que la traduction appauvrie qu'en donnent les urnes et que c'est bien cela qui fait problème aujourd'hui. Vous avez le même diagnostic qu'elle, Jérôme Fourqueux ?
Alors, effectivement, la réalité électorale ne prend pas en compte l'ensemble de ce qui se passe dans la société française, effectivement, et sans doute notamment dans les jeunes générations, l'acte de vote et l'acte d'engagement politique n'est plus aussi automatique et beaucoup de jeunes peuvent se sentir citoyens en pratiquant ou en ayant recours à d'autres modalités d'intervention ou d'action, les pétitions en ligne, les mobilisations dans la rue, plus que par le bon vieux bulletin qu'on va glisser dans une urne. On rappellera que c'est toujours et encore parmi les jeunes que l'abstention était la plus importante. Donc oui, effectivement, on a aujourd'hui, notamment à l'ère du digital et du numérique, mais pas seulement, aussi de l'économie collaborative, toute une série de pratiques qui se développent et qui sont bien plus riches que la seule démocratie élective traditionnelle.
Qu'est-ce qui vous a vraiment surpris dans les résultats d'hier soir, vous, Jérôme Fourqueux ?
Alors, je pense comme beaucoup de monde, le faible score de la liste Bellamy, d'une part, et bien évidemment aussi la poussée écologiste. Les deux facteurs n'avaient pas été mesurés dans les derniers sondages qui avaient été faits dans les tout derniers jours. Donc ça, c'était assez surprenant et les deux phénomènes sont liés parce que on voit que la liste de la Renaissance, la liste de la République en marche, fait à peu près en score, le score qui était celui de Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle, mais sous cette apparente stabilité, on a en fait un chassé-croisé qui s'est opéré, c'est-à-dire qu'une partie de l'électorat de gauche qui avait voté pour Emmanuel Macron, à peu près 20% de l'électorat macronien, a voté cette fois pour la liste Europe Écologie Les Verts, et ces départs ont été compensés par l'arrivée d'un gros quart de l'électorat filloniste qui a voté cette fois pour la liste de La République En Marche. Donc on a un chassé-croisé qui donne une stabilité sur la liste de la Renaissance, mais des évolutions qui s'opèrent sur d'autres familles politiques. Et donc, la droite a connu hier ce qu'a connu le Parti Socialiste il y a 2 ans, c'est-à-dire qu'elle a été disloquée par l'irruption de cette nouvelle formation politique qui est La République En Marche.
Une droite à 8,5%, c'est vraiment une des grandes surprises de ce scrutin et c'est une débâcle pour beaucoup aujourd'hui. L'avenir de la droite, ça ne peut pas être d'être contre l'IVG. Ça, c'est ce qu'a déclaré ce matin le secrétaire général délégué du parti, Geoffroy Didier, sur France Inter. On l'écoute.
Je pense que nous avons perdu un point lorsque François-Xavier, malgré tout le respect que je lui porte, commencé à faire revenir son conservatisme sociétal sur le dessus de la table en disant, devenant un acteur de l'histoire sur Vincent Lambert. C'était pas le sujet. Le sujet du défi européen, ça n'a rien à voir avec ça.
C'était en revanche, nous avions des propositions. Vous pensez qu'il est archi-minoritaire dans le peuple de droite, entre guillemets, sur cette question?
En tout cas, je crois que cette droite-là ne nous fera jamais gagner et qu'elle nous condamnera à l'échec. C'est la raison pour laquelle je souhaite que la droite se modernise, se déringardise et ait le courage d'avoir cette révolution mentale. C'est peut-être une droite, mais ce n'est pas la droite.
Cette droite-là, pas moderne, ringarde à entendre Geoffroy Didier. Qu'est-ce qu'il incarnait pour vous, le philosophe François-Xavier Bellamy ? Est-ce que, à sa manière, il n'incarnait pas aussi cette France qui a disparu, ce que vous actez dans votre essai, Jérôme Fourqueux, cette France catholique, républicaine d'avant ?
Alors effectivement, l'irruption de la République en marche et d'Emmanuel Macron nous a fait passer dans une nouvelle ère politique qui correspond aussi à la réalité culturelle et sociologique du pays. Donc ça pose des défis majeurs aux formations politiques traditionnelles qui ont vécu d'une manière un peu rentière pendant des décennies sur cette opposition gauche-droite. Aujourd'hui, tout ça est en partie obsolète. Alors bien évidemment, il reste des catholiques. Et d'ailleurs, ils n'ont pas tous voté pour la liste de M. Bellamy. Quand on regarde les résultats électoraux dans l'ouest de la France ou dans certains territoires qui sont marqués historiquement par le catholicisme, et c'est la République en marche qui est en tête. Donc on voit que les choses ont bougé. Et ce défi qui est posé à la droite, il a été posé aussi à la gauche. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un vaste bloc central qui émerge et qui reprend un certain nombre d'éléments programmatiques qui étaient historiquement portés par la gauche et par la droite, eh bien, ces deux familles politiques se retrouvent très dépourvues. Et donc, c'est pas, à mon avis, uniquement une question de casting ou de degré de ringardisme qui va résorber ou résoudre la difficulté. Pour faire court, nous avons aujourd'hui toute une partie de la droite modérée, pro-européenne, libérale, économiquement et culturellement, qu'on pourrait qualifier de juppéiste, qui est passée avec armes et bagages dans les rangs de La République En Marche, quand une frange plus radicale regardait du Front National. Et donc c'était Jean-Luc Mélenchon qui avait théorisé le fameux casse-noix qui avait brisé la noix socialiste au moment de la présidentielle entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Il s'est passé la même chose cette fois-ci à droite. Il ne reste plus à droite que, si vous voulez, l'ossature de l'électorat de droite traditionnel. On a parlé des catholiques, on pourrait aussi prendre les personnes âgées. 14% des retraités qui votent pour la liste de Monsieur Bellamy contre plus de 30% à Emmanuel Macron. Idem dans les catégories supérieures, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie de la sociologie traditionnelle de la droite, les catholiques, les retraités, les cadres, les milieux d'entrepreneurs, qui aujourd'hui se tournent vers Emmanuel Macron, qui leur apparaît comme étant l'incarnation d'un vieux projet, c'est-à-dire de réconciliation du pays et de sa transformation pour l'adapter à la mondialisation.
Mais de la difficulté pour les Républicains aujourd'hui à faire la différence, et notamment aux yeux et aux oreilles d'un électorat plutôt libéral. C'est ce que nous disait hier lors de notre soirée électorale en direct de Lyon l'écrivain Guy Walter. Pourquoi préférer aujourd'hui la copie à l'original ?
Mais c'est ça, effectivement, puisque la droite, encore une fois, pendant des décennies, s'est surtout singularisée ou démarquée face à la gauche en mettant en avant un agenda de transformation libérale de la société. Aujourd'hui, cet agenda est repris et mis en action par Emmanuel Macron. Et donc, la droite se trouve, encore une fois, très démunie. Il y a toute une partie de son corpus idéologique ou problématique qui lui a été volé. Et donc, c'est peut-être aussi pour ça que Laurent Wauquiez s'est dit, voilà, on va retourner aux fondamentaux. Et pour se démarquer de cette République En Marche, on va lancer le candidat Bellamy, qui manifestement n'a pas été très couronné de succès.
On a Stéphane Robert du service politique de France Culture qui s'est glissé comme une souris dans ce studio pour vous écouter et qui a peut-être aussi une question à vous poser. Bienvenue.
Merci. Vous décriviez cet effet essuie-glace en 2017, un coup à gauche, 2019, un coup à droite. Avec La République En Marche qui balaye d'un côté et de l'autre ces formations politiques traditionnelles. Est-ce que c'est durable ou est-ce que le clivage droite-gauche qu'on a connu depuis toujours ou presque est menacé selon vous ou est-ce qu'il va revenir ? Parce que ça, c'est le pari que fait Laurent Wauquiez, par exemple. C'est le pari que fait un certain nombre de socialistes également.
Alors, 2 ans, c'est assez court pour un historien, mais pour un sondeur ou un acteur politique, c'est déjà beaucoup. Vous voyez que le Parti Socialiste qui a pris la foudre en 2017 ne s'est pas relevé pour l'instant. Il fait 6% des voix. Et aujourd'hui, c'est au tour de la droite de connaître la même déconvenue. Donc, ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, L'Archipel français, c'est que le clivage gauche-droite n'est pas forcément mort, mais qu'il n'est plus le clivage central et unique de la vie politique et qu'il y en a un nouveau qui est plus important. Alors, c'est vrai en France, mais c'est vrai aussi un peu partout en Europe. D'ailleurs, on verra au Parlement de Strasbourg que les deux grandes familles politiques historiques, le PPE pour la droite et le PSE pour les sociaux-démocrates, eh bien, sont en recul assez significatif face, alors on en avait beaucoup parlé avant le scrutin, à la montée du populisme de droite, mais aussi face à la montée des écologistes sur une autre thématique émergente, et puis face aussi à un bloc réformiste au sein duquel vont siéger les députés En Marche. Donc on voit bien que cette vieille matrice, elle a encore, j'allais dire, de beau reste, mais qu'elle est très fortement abîmée, fracturée, et que le degré de décomposition est sans doute peut-être plus avancé chez nous que chez certains de nos voisins. Regardons ce qui se passe en Allemagne, où les Grünen font 20%, ils arrivent en deuxième position, ils sont devant le SPD. Donc le SPD n'a pas disparu, mais il est aujourd'hui en troisième position. Et la CDU-CSU font 28%, donc on est là aussi sur les deux partis historiques de la vie politique allemande qui sont à moins de 45% et d'autres formations. Donc tous ces paysages aujourd'hui se disloque. En Italie, très forte poussée de la Ligue, et on voit bien que là aussi, les formations politiques traditionnelles, Parti démocrate ou la droite classique italienne, est en grande difficulté, un peu comme ce que nous connaissons chez nous en France.
Donc il y a une usure naturelle presque des partis traditionnels, mais il y a aussi dans chaque pays des spécificités, ce début d'effritement de ce clivage gauche-droite traditionnel dans votre ouvrage. Jérôme Fourquet, vous le faites remonter quand même au début des années 80. Le premier coup porté, c'est le tournant de la rigueur, 83.
Alors c'est 83 avec le tournant de la rigueur pour ce qui se passe à gauche, avec du coup un désalignement de toute une partie des milieux populaires qui cessent de considérer que voter à gauche est naturel et automatique, que la gauche est passée à autre chose. Et la même année, 83, c'est le coup de tonnerre de Dreux, avec la première irruption du Front National dans le paysage électoral français. C'est donc il y a plus de 30 ans maintenant, 35 ans. Et ce coup de tonnerre, il vient signifier ou symboliser l'émergence dans le débat public d'une thématique, la question migratoire, qui ne nous quittera plus jamais depuis lors. Donc on voit bien que ce vieux monde où on avait un affrontement gauche-droite organisé sur une société assez binaire, entre une France catholique et chrétienne d'un côté, un bloc républicain laïque de l'autre, structuré également par un affrontement de classe assez historique, tout cela a été considérablement chamboulé, et que fatalement, la réalité électorale devait l'être un jour ou l'autre. Donc il y a une résilience plus forte du système politique qui a duré une trentaine d'années. On a continué de fonctionner sur l'affrontement gauche-droite, mais vous voyez bien que ce mécanisme-là est aujourd'hui totalement grippé et totalement obsolète. Et donc ce qui s'est passé hier en est une démonstration supplémentaire.
Stéphane Robert.
En quoi est-ce que Emmanuel Macron est moteur, ou bien en quoi est-ce qu'il surfe sur ce qui est en train de se passer ?
Alors comme souvent, dans les moments historiques, il y a la rencontre d'un climat, d'une période avec une personnalité qui a synthétisé ou catalysé ce qui était en gestation. Les tendances que j'essayais de décrire étaient bien là préalablement à l'avènement d'Emmanuel Macron. Mais ce dernier, par son action, par sa vision politique, accélère aussi le processus. C'est-à-dire qu'il s'est très bien occupé de l'implosion du Parti Socialiste, le dynamitage du Parti Socialiste en 2017, et nous en avions déjà parlé sur cette antenne à plusieurs reprises. On peut lire aussi le début de ce quinquennat comme la volonté de faire subir le même sort à la droite, en disant voilà, il y a un pôle qui nous résiste encore aujourd'hui, c'est la droite républicaine. François Fillon, en dépit de ses difficultés, avait quand même fait 20% des voix, et donc on a nommé à Matignon quelqu'un qui était proche d'Alain Juppé, Édouard Philippe. On a mis au poste clé économique des ministres de droite. On a confié la tête de liste à Madame Loiseau, qui était proche des juppéistes. On a réformé la SNCF. Le gouvernement a fait les ordonnances travail, a supprimé l'ISF, a, dans le sillage de la crise des Gilets jaunes, voté un projet de loi qui avait été initié par la droite. C'était la loi anti-casseur. Et donc tout ça, c'était autant de signaux envoyés à l'électorat de droite, et signaux qui manifestement ont été entendus, puisqu'encore une fois, de manière assez spectaculaire, un quart des électeurs fillonistes, qui étaient quand même assez à droite, qui sont allés voter hier, ont glissé un bulletin La République En Marche dans l'urne.
Il y a eu plusieurs tentatives de captation du mécontentement, de comprendre aussi la colère exprimée au rond-point et dans la rue par le mouvement des Gilets jaunes ces derniers mois. Mais il est où pour vous ce mouvement dans les urnes ? Il s'est traduit comment ?
Alors, il est d'abord en partie hors des urnes, puisqu'il y a eu une abstention qui a été importante dans l'ensemble de la population, mais a fortiori aussi chez les gens qui se revendiquaient dans le mouvement des Gilets jaunes. Alors ces personnes, déjà pour donner un petit peu un ordre de grandeur, aujourd'hui c'est encore 13% de Français qui, quand on les interroge, nous disent « moi je me considère comme Gilet jaune ». C'est pas forcément des gens qui vont défiler tous les samedis, mais qui se considèrent comme étant sympathisants ou représentés par ce mouvement, ce qui est encore beaucoup.
Ce qui est beaucoup, 13%.
Alors, où sont-ils aujourd'hui ? Eh bien, parmi ceux qui sont allés voter, une majorité relative, mais importante, de l'ordre de 40%, a voté en faveur des listes de la liste du Rassemblement National. Et les Insoumis n'ont récupéré qu'à peu près 10 à 15% de cet électorat. Alors, les autres se sont dispersés. Donc, ça dit deux choses. ou trois. D'une part, ils étaient divers électoralement, on le voit ici. Deuxièmement, il y avait quand même une forte composante frontiste dès le début, ce qui a été nié par certains observateurs qui voulaient voir ce qu'ils voulaient voir, mais elle était là et bien présente. Et troisièmement, la France insoumise a été aussi motrice dans un certain nombre de rassemblements, mais peut-être auprès des noyaux les plus militants, mais pas représenté de manière aussi forte dans ce qu'on pourrait appeler les sympathisants ou électeurs des Gilets jaunes.
Mais ça, est-ce que ça ne dit pas aussi l'absence de confiance ou la défiance même affichée dans ce jeu électoral de la part de ce mouvement-là, c'est-à-dire aussi le sentiment qu'aujourd'hui, ce n'est pas à travers les urnes que les questions se régleront?
Alors effectivement, ça peut être aussi analysé à cette aune-là, surtout que le scrutin qui nous intéresse était un scrutin européen. Et donc peut-être que pas mal de Gilets jaunes se sont dit, voilà, c'est pas ni le lieu ni l'endroit. Alors, autre élément allant dans votre sens, c'est une grande défiance de ces Gilets jaunes vis-à-vis du système représentatif électoral, le déboire qu'ont connu les listes qui se revendiquaient précisément de ce mouvement, qui ont fait chou blanc.
Et, dont celle de Francis Lalanne, voilà, Alliance jaune, hein, 0,54%.
0,54%, avec beaucoup de ces personnalités qui ont été, dont les têtes ont été coupées dès qu'elles ont émergé du mouvement. Donc il y avait un réflexe très basiste, hein, volonté d'être représenté uniquement par soi-même. Et puis quand même, la réussite par Marine Le Pen, aidée en cela par Emmanuel Macron, la réussite qui a consisté à incarner et à apparaître comme étant le meilleur réceptacle de la colère anti-Macron. Et donc une partie des Gilets jaunes, dont aujourd'hui un des moteurs est toujours l'anti-macronisme, ont opté pour cette liste, pour faire passer leur colère dans les urnes vis-à-vis d'Emmanuel Macron.
France Culture avec notre invité, l'analyste politique Jérôme Fourquet, auteur de L'archipel français, naissance d'une nation multiple et divisée, paru au Seuil, prix du livre politique cette année, avec aussi à nos côtés notre chef du service politique. On est ensemble jusqu'à 13h30, il est 13h18 sur France Culture.
France Culture, la grande table, Olivia Jesbert.
Stéphane Robert, on peut peut-être interroger d'abord, parce qu'on ne l'a pas encore fait, ce succès aussi quand même du Rassemblement National, du choix de Marine Le Pen de mettre en tête de liste le tout jeune Jordan Bardella. C'est un pari réussi pour vous, en tout point, Jérôme Fourquet?
Alors oui, c'est un succès incontestable. Cela étant, peut-être que dans leur rêve ou leur souhait plus profond, les dirigeants du Rassemblement National s'attendaient à mieux. On aurait pu penser que l'écart entre le Rassemblement National et La République En Marche, notamment dans le sillage de la crise des Gilets jaunes, serait plus important. Mais ils sont en tête. Premièrement, ils améliorent le score de la présidentielle et ils sont assez proches, un peu en deçà, du score des européennes de 2014. Et donc, dans ce paysage chamboulé en permanente évolution, la stabilité d'un bloc frontiste à 24 ou 25% des voix est assurément une performance.
Jordan Bardella, 23 ans, tête de liste du Rassemblement National. À quelle France parle-t-il? Quelle France déjà a-t-il remercié hier après l'annonce des résultats?
C'est une satisfaction immense pour tous ceux qui n'ont jamais douté, pour tous ceux qui se sont battus et n'ont jamais cessé de croire en la France. Cette mobilisation inédite dans une élection européenne depuis plus de 25 ans, témoigne d'un sursaut populaire contre le pouvoir en place qui subit ce soir un véritable échec. J'adresse toute ma gratitude à l'ensemble des Français qui nous ont fait l'honneur de leur soutien en plaçant le Rassemblement National en tête de ces élections européennes. Et tout particulièrement à ceux qui, venus d'autres horizons politiques, ont entendu notre appel au rassemblement.
Voilà, appel au rassemblement, 23,3% pour la liste de Jordan Bardella du Rassemblement National. Qu'est-ce que ça nous dit de l'électorat aujourd'hui de ce rassemblement, du front, ex-Front National, de la porosité aussi des électorats dans une élection comme celle-ci?
Alors, avant de parler de porosité, il faut souligner la grande stabilité de cet électorat. 85% des électeurs qui avaient voté Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle et qui sont retournés voter aux européennes ont voté pour la liste de Jordan Bardella.
Donc, et c'est à eux qu'il a adressé la première partie de son message qu'on vient d'entendre.
Et donc qui assure un socle très très important à cette liste. Quand on regarde la géographie, la sociologie de ce vote, on est aussi frappé par la grande permanence et stabilité, c'est-à-dire un score très important dans les milieux populaires, dans les chiffres de l'IFOP, parmi les ouvriers qui sont allés voter, 47% ont voté pour la liste conduite par Jordan Bardella, et nous sommes à 32% chez les employés. Donc c'est une France populaire, une France qui est peu diplômée, également une France qu'on a souvent qualifiée de périphérique. Quand on regarde les cartes, elle fait ses scores, cette liste, principalement à bonne distance des grandes métropoles. Et à ce socle historique très solide aujourd'hui, s'est aggloméré une partie de l'électorat qui avait voté pour François Fillon, puisque 15% de l'électorat filloniste, ah, c'est le fameux casse-noix de tout à l'heure, il y a eu les pertes du côté de chez En Marche, mais il y a aussi 15% de l'électorat filloniste qui a voté pour la liste de Jordan Bardella, avec comme illustration quelques transfuges, dont l'ancien député du Vaucluse, Thierry Mariani, qui a quitté les Républicains et qui figurait en bonne place sur la liste.
Jordan Bardella, il est né à Drancy, en Seine-Saint-Denis, dans une famille plutôt modeste, avec des origines italiennes. Il a souvent expliqué que le déclenchement de son engagement, ça avait été les événements de Clichy-sous-Bois. Votre livre, justement, Jérôme Fourquet, est un mélange de cartographie, d'enquête d'opinion et d'anthroponymie, c'est-à-dire l'étude des choix des prénoms et de leurs évolutions. Il s'appelle Jordan. De quoi son prénom est-il le nom ?
Alors effectivement, je parle dans le livre de la montée en puissance des prénoms anglo-saxons dans les milieux populaires. Donc Jordan en est une illustration, comme le symptôme d'une autonomisation culturelle et idéologique de ces milieux populaires, en tout cas d'une partie d'entre eux. Et on avait été frappé, quand on a écrit ce livre, de la correspondance entre la carte de la prévalence ou de l'intensité de la présence des prénoms anglo-saxons sur le territoire et des cartes électorales, et notamment de la carte en faveur du Front National. Jordan Bardella, il n'est pas un cas isolé. Le maire d'Hénin-Beaumont, autre fief frontiste s'il en est, s'appelle Steve Briouat. Et quand vous regardez les listes des candidats frontistes aux élections locales, on est souvent marqué par la présence nombreuse de ce type de prénoms aussi qu'on a retrouvé assez fréquemment sur les ronds-points. Donc on a aujourd'hui toute une partie de cette France populaire qui quelque part a fait sécession culturellement, idéologiquement, et qui se construit en opposition frontale face à ce qu'ils appellent la caste ou le système ou les élites globalisées. On n'est pas sur des prénoms effectivement très gaulois qui sentent le terroir, mais c'est aussi une illustration de cette décomposition, cette recomposition au sein des milieux populaires.
Voilà, volonté d'affranchissement à la fois du côté des classes populaires, et puis vous le racontez dans cet ouvrage aussi, de sécession des élites qui se sentent beaucoup moins responsables ou moins engagées dans un devoir de solidarité qu'auparavant, et qu'on peut retrouver à travers aussi cette carte électorale au lendemain de l'élection européenne. Peut-être encore un mot aussi sur cette fracture qu'il symbolise, Jordan Bardella, que vous évoquez dans cet essai, au sein de l'immigration, puisque vous nous parlez d'une société multiple aujourd'hui, d'une nation multiple et divisée.
Alors effectivement, le cas de Jordan Bardella est assez symptomatique de ce point de vue-là, c'est-à-dire que c'est un enfant de la Seine-Saint-Denis, un enfant de l'immigration, mais d'une immigration européenne, italienne en l'occurrence. Et on voit bien aujourd'hui que les résultats électoraux doivent être aussi lus. Alors, ça peut un peu déranger en France, parce que c'est pas notre culture, mais être aussi lu selon une grille de lecture ethnoculturelle. Et le cas de la Seine-Saint-Denis est assez parlant, c'est-à-dire qu'on va avoir des personnes issues d'immigration européenne, alors soit très anciennes comme l'immigration polonaise dans le Pas-de-Calais, par exemple, ou plus récentes comme les immigrations italiennes, portugaises ou autres, qui votent aujourd'hui à peu près comme les Français non issus de l'immigration, en faveur du Front National, à peu près au même niveau. Donc, de manière un peu provocatrice, j'avais dit que ça pouvait passer comme le symptôme d'une intégration réussie de cette immigration qui votait autant pour le Front National désormais que ceux qui n'étaient pas nés de l'immigration. En revanche, les personnes qui sont rattachées ou qui sont issues d'une immigration maghrébine ou africaine, eux, continuent de voter très faiblement pour le Front National, et une des raisons majeures qui explique ce vote Front National est bien d'une réaction d'hostilité ou d'opposition à cette immigration plus récente. Donc on voit bien que cette, cette question des appartenances ethno-culturelles, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, doit être prise en compte pour comprendre ce qui se passe au moins au plan électoral, mais aussi au plan sociologique dans notre pays.
Une dernière question de Stéphane Robert sur cette recomposition ou cette nouvelle composition du paysage idéologique et électoral.
Il y a deux phénomènes que vous avez cités tout à l'heure qui méritent peut-être qu'on s'y arrête un tout petit peu. C'est d'abord un vote des retraités fortement en faveur d'Emmanuel Macron, alors qu'on pensait qu'il était peut-être un peu déconsidéré auprès de cet électorat. Et puis le vote en faveur de La République En Marche également, d'une partie de l'électorat filloniste qui a pris la place d'un électorat de gauche parti chez les écologistes. Alors déjà, qu'est-ce que ça signifie et quelles conséquences pour les échéances électorales à venir si ça en a ?
Alors les deux phénomènes sont liés, puisque on se souvient qu'à l'élection présidentielle, François Fillon avait dû son score de 20% d'abord et avant tout à la fidélité en faveur de la droite de l'électorat retraité. Plus d'un tiers des retraités avaient voté à droite. Et dans cette catégorie d'âge, il était au même niveau que Nicolas Sarkozy en 2012. Donc c'était la France du travail, la France des actifs qui avait abandonné la droite. Les retraités étaient restés fidèles. Depuis lors, une partie d'entre eux semble avoir migré électoralement et opté pour la liste de la République En Marche. Je vous redonne les chiffres. On a 33% en faveur de La République En Marche contre 14% pour la droite. Et donc ce dernier bastion qui restait à la droite, ce bastion des retraités, des personnes âgées, eh bien une bonne partie a glissé en direction d'En Marche. Comment peut-on l'expliquer ? En partie, je pense, par ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire un agenda de réforme économique assez libéral, mais aussi, autre élément qui a compté beaucoup, je pense, plus récemment aux yeux de cet électorat retraité, c'est ce qui s'est passé dans les rues françaises au moment de la crise des Gilets jaunes, avec des scènes de violence, d'attaques de forces de l'ordre, d'attaques de bâtiments publics, la dégradation de l'Arc de Triomphe, le saccage d'un certain nombre de quartiers commerçants, des centres-villes. Et cet électorat retraité de droite est très soucieux de la stabilité, de l'ordre, du respect de la propriété. Et donc Emmanuel Macron, avec la loi anti-casseurs, aidé par son ministre de l'Intérieur, s'est positionné comme étant le candidat du parti de l'ordre et assez donc aux considérations économiques et pro-européennes qui avaient permis déjà de capter une partie de l'électorat de droite, est venue s'ajouter cette rhétorique, ce discours sur la défense des institutions face à la poussée populiste, à l'instabilité politique, qui a sans doute résonné à l'oreille de toute une partie de l'électorat de droite âgée.
En un mot, Jérôme Fourquet, pour conclure, cette nation multiple et divisée, est-ce que c'est grave, docteur, ou est-ce qu'on va apprendre à vivre avec ? Est-ce qu'il faut maintenant trouver les outils pour tenter de stabiliser et de ressouder, recréer un socle commun ?
Alors, je pense qu'il faut être pragmatique et considérer qu'effectivement, il va falloir vivre avec cette réalité qui s'impose à nous, et essayer de trouver les voies et moyens de disposer d'un système électoral et puis plus globalement social et culturel qui permettent de prendre en compte cette diversité, d'essayer aussi de mettre en avant les ponts et les passerelles qui continuent d'exister entre les différentes îles et îlots de l'archipel pour que tout cela puisse évoluer de manière, on l'espère, relativement harmonieuse.
Au fil du temps, l'insularité a altéré la matrice commune et chaque fragment du territoire émergé a développé ses propres spécificités. Pour ce faire, vous avez deux remèdes à expérimenter rapidement, une dose de proportionnel dans les élections législatives pour que toutes ces îles de l'archipel puissent être représentées et puis avoir un recours régulier au référendum pour redonner à chacun un sentiment de possession du débat public, de pouvoir exprimer sa voix. Un grand merci à vous, Jérôme Fourquet. L'archipel français, naissance d'une nation multiple et divisée, apparu au seuil. Merci à vous Stéphane Robert et à toute l'équipe de la Grande Table, Maya Neskovic et Laura Dutèche-Pérez, Henri Leblanc et Oriane Delacroix, avec l'aide précieuse d'Antoine Suzarelli, de Mathilde Tonfourcade à la réalisation aujourd'hui. C'était Marie Placet avec Morgane Banan. Très bel après-midi sur France Culture.